Chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue à Radio Créum. Éthique en série avec Martin Winkler et Daniel Weinstock.
Venons-en maintenant à l'éthique de House, qui est peut-être le point le plus difficile à aborder, parce que superficiellement, et je dis bien superficiellement, House apparaît et se présente parfois comme un être, disons, amoral, hein, dont les rapports avec ses collègues, avec ses patients sont parfois très compliqués. On lui reproche, et les apparences vont parfois confirmer, du moins superficiellement, cette apparence. On lui reproche de ne pas s'intéresser aux gens, mais plutôt des problèmes, des puzzles médicaux que ces gens, qui occupent ces gens, mais de manière accidentelle. Hein. Le puzzle se serait présenté sous une autre forme non humaine que House aurait été tout aussi intéressé à régler le puzzle. Donc on lui reproche d'avoir une attitude instrumentale par rapport à ses patients. Quand je regarde les livres d'éthique médicale qui sont devenus plus ou moins canoniques dans la littérature philosophique en bioéthique, où il est question de consentement libre et éclairé, du respect de l'autonomie du patient, de ne rien faire contre la volonté exprimée de manière expresse par un patient lucide et compétent, il faut bien reconnaître que House n'y va parfois pas avec le dos de la cuillère. Il y a toute une dimension de l'émission, de la relation entre House et ses collègues, que ce soit Cutty, que ce soit Chase et Cameron des 2-3 premières saisons ou les 3 des saisons, des 2 dernières saisons, qui consiste à voir comment allons-nous contrôler les impulsions potentiellement destructrices de House. Alors toi, tu insistes que malgré ses apparences, House est une série et House a, le personnage lui-même, une éthique. Donc j'aimerais t'entendre là-dessus.
Bah, ça se voit dès l'épisode pilote. C'est-à-dire que dans l'épisode pilote, une jeune femme est prise de troubles neurologiques très très bizarres qu'on n'arrive pas à expliquer. Ils finissent par postuler, mais ils n'en ont pas la preuve, qu'en fait elle a une parasitose digestive, c'est-à-dire qu'elle a des larves de vers solitaires dans le cerveau parce qu'elle a bouffé du jambon. Elle n'aurait pas dû, parce qu'en principe elle est juive, mais elle n'aurait pas dû manger du jambon. Mais elle ne l'a pas dit. Et donc, et que son jambon n'était pas cuit, enfin, en plus. Et alors donc, seulement, ils ne peuvent pas le prouver parce qu'il faudrait qu'ils lui fassent une biopsie. En tout cas, dans un endroit où ils sont susceptibles de trouver le parasite, et ils ne peuvent pas le faire. Et il va la voir pour la convaincre de faire sa biopsie, et elle dit non, vous avez fait toutes les expérimentations que vous avez voulu, vous n'avez pas trouvé, maintenant je veux qu'on me foute la paix. Quand il sort, son équipe lui dit alors, qu'est-ce qu'elle a dit? Il dit, ben, elle ne veut pas. Et Chase dit, ben, il faut la forcer. Et Wilson dit non, il ne peut pas la forcer parce qu'il est allé la voir, c'est la première fois qu'il va la voir, il est allé la voir, il l'a entendue, il la respecte. Ce que je veux laisser entendre, c'est que House, pour pouvoir explorer des mots qui sont des mots incompréhensibles, reste volontairement à distance du patient, de manière précisément à ne pas être touché, c'est pour ça qu'il envoie les autres, parce que quand il est touché par le patient, il perd son imaginaire médical et clinique qui lui permet d'aller chercher des explications partout. Il ne faut pas perdre de vue non plus que House, c'est un génie, c'est un surdoué. Holmes et House sont des gens qui ont une intelligence largement supérieure à la moyenne. Ils comprennent très très vite et beaucoup plus vite ce que les autres pensent. Ils le comprennent plus vite qu'eux-mêmes. Donc c'est ça, ils parlent aussi beaucoup de quelque chose de très important, c'est qu'ils s'ennuient. Quand on lui pose un dossier, il dit « boring ». J'en veux pas parce que c'est ennuyeux. C'est un super génie. C'est un enfant surdoué qui s'ennuie parce qu'il a déjà vu, tout entendu. Donc, il n'est stimulé dans ce qu'il a de meilleur à faire que s'il a un problème insoluble. Mais pour pouvoir justement le traiter de manière cérébral. Il est obligé de rester à distance des patients. Chaque fois, et j'ai vu tous les épisodes de House à part les 5 ou 6 derniers, chaque fois qu'il se rapproche d'un patient, il se met en danger. Il y a une patiente en particulier qui a été violée, dont il finit par se rapprocher, mais avec laquelle il a beaucoup de mal. Pourquoi ? Parce que finalement, il se revoit dans ce qu'elle a vécu, il revoit ce que lui-même a vécu. Il y en a une autre qui est obligée de traiter à 5000 km de distance parce qu'elle est au pôle nord ou au pôle sud,
en vidéo.
Et à qui il demande de se déshabiller. Elle est médecin aussi, donc il lui demande de se déshabiller intégralement pour qu'elle s'examine devant lui. Et elle dit, mais je n'enlève pas mes chaussettes. Ah, mais pourquoi ? Ben parce qu'il n'y a qu'avec mes amants que j'enlève mes chaussettes, donc là, je n'enlève pas mes chaussettes. Donc, il accepte qu'elle n'enlève pas ses chaussettes. Or, il va découvrir à la fin que le diagnostic se trouve sur un de ses pieds. Mais comme il a respecté cette femme, il lui a dit, et d'ailleurs, il le dit, c'est dit dans le dialogue, comme je n'ai pas voulu lui faire enlever ses chaussettes parce que... Enfin, ou c'est Wilson qui dit parce que tu l'as respecté, tu n'as pas fait le diagnostic tout de suite. Donc, il a une éthique. Il a une éthique qui est de s'identifier complètement à la personne dont il s'occupe. N'oublions pas aussi qu'il a lui-même fait l'objet d'une erreur de diagnostic. C'est raconté dans l'épisode 121, l'avant-dernier épisode de la première saison. Il a fait l'objet d'une erreur de diagnostic parce qu'il était toxicomane. Il est venu avec une douleur dans la jambe. On a dit « c'est une manipulation pour avoir des antalgiques ». Mais il avait vraiment quelque chose à la jambe. Et il avait vraiment quelque chose à la jambe. Pourquoi ? Parce qu'on ne l'a pas cru. Et donc, lui, il utilise le paradoxe inverse, c'est-à-dire qu'il croit tout ce que les gens disent, mais il dit aussi « vous me dites, mais vous ne me dites pas tout ». De la même manière que lui n'a pas tout dit le jour où on l'a examiné, on l'a fait le diagnostic. Il avait dit « je suis toxicomane, mais j'ai vraiment mal ». Peut-être qu'on l'aurait vu autrement. Il avait caché quelque chose, c'est qu'il était toxicomane. Donc, il y a une analogie très forte entre House et ses patients. Il y a une proximité très forte, mais c'est précisément pour ne pas se laisser errer à cause de cette proximité que lui reste à distance. Donc pour moi, il y a un discours éthique extrêmement fort qui précisément porte sur les limites de l'interaction et de l'éthique justement dans une fonction de relation, dans un métier de relation. Jusqu'où devons-nous être proches ? Jusqu'où devons-nous être éloignés ? Et où se situe qu'est-ce qui se passe dans cette zone grise entre les deux ?
Il y a aussi un discours intéressant dans cette émission, passionnant d'ailleurs, sur les relations éthiques entre, parce que l'éthique médicale, ce n'est pas seulement le médecin vis-à-vis de ses patients, c'est également le médecin et son équipe, le médecin Absolument. Et ceux qui l'entourent. Et il y a quelque chose de très intéressant dans les rapports de House avec ceux qui l'entourent. Quelque chose que tu as dit sur le caractère surdoué de House apparaît très clairement dans ses relations avec ses collègues et avec tous les êtres humains avec qui il entre en contact. C'est-à-dire qu'il est tellement intelligent qu'il lit les situations comme un joueur d'échecs qui voit à 10 gestes, 10 moves dans le futur ce que les gens vont faire. Il comprend les soubassements des motivations des individus mieux qu'eux-mêmes ne les comprennent. Comment avoir une relation éthique avec d'autres lorsqu'on comprend aussi bien les rouages intérieurs et il a toujours raison. Il a toujours raison dans l'analyse qu'il fait de lui-même et des autres. Il y a quelque chose de très drôle dans sa relation avec Wilson qui est presque aussi intelligent que lui, lorsque Wilson est en train d'analyser les jeux de pouvoir par exemple que House est en train d'entretenir avec Cotty et où il est en train de lire les relations d'abord comme un être humain normal le ferait et ensuite à la House, tu as fait ça parce que tu t'attendais à ce que comme un joueur d'échecs. Alors je me suis souvent posé la question en regardant House, comment avoir des relations éthiques normales avec d'autres êtres humains quand ils sont en quelque sorte des vitrines ou du moins quand on a la prétention de pouvoir les lire de manière presque parfaite. Et alors, je vais terminer sur un point parce que tu disais que tu n'as pas vu les derniers épisodes et alors je ne voudrais pas trop livrer la marchandise, mais c'est très important ce qui se passe dans les derniers épisodes parce que pour la première fois, il y a quelque chose comme un doute systématique que House entretient par rapport à lui-même. Doute systématique qui a été de manière tout à fait géniale injectée à l'émission par le suicide de
Kuttner.
Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la petite histoire, c'est tout à fait intéressant. Et comment des scénaristes intelligents et créatifs peuvent utiliser ce qui, à la limite, aurait été un pépin pour l'émission, pour lancer l'émission dans une direction complètement différente. L'acteur dont le nom m'échappe, qui joue Kuttner...
Calpen.
Calipen décide de travailler dans l'administration Obama dans une fonction que j'ignore, sans doute relation avec les jeunes. Bon, c'est très bien. On sait que Calipen avant avait joué dans cette petite série de films Harold et Kumar, donc bien connu des jeunes. Et donc un personnage disparaît et disparaît rapidement. Il était là il y a 2 semaines, il ne sera plus là dans 2 semaines. On décide de le suicider, ce qui est une stratégie narrative tout à fait banale. Bon, on aurait pu le tuer également, mais
on ne donne pas d'explication.
Et House est littéralement rongé par le fait qu'il n'arrive pas à trouver. Je ne dirai pas ce qui se passe dans les derniers épisodes parce que je veux te laisser le délice, mais aussi, c'est très troublant ce qui se passe dans les dernières émissions. Il y a quelque chose comme un début de descente aux enfers qui se fait lorsque House, en 42 minutes nous a habitués à pouvoir résoudre à peu près tous les énigmes médicaux qui se présentent à lui, n'arrive pas à comprendre pourquoi un type qui, selon toute apparence, était probablement le plus jovial, le plus équilibré de toute l'équipe, décide, sans donner la moindre explication, de se suicider. Donc, il sera intéressant de voir dans l'année suivante comment ce House, qui pour la première fois, et j'exagère peut-être un peu en disant pour la première fois n'a pas su lire un personnage, quel sera l'impact sur le développement du personnage.
Moi, je pense qu'il y a aussi quelque chose dans le fait que House, à cause de son intelligence supérieur, est quelqu'un qui, sur le plan affectif, enfin, il est hyper intelligent, mais il n'est pas mûr sur le plan affectif. C'est comme ces enfants hyper doués qui sont immatures affectivement et qui font des caprices. Tu disais comment avoir des relations éthiques, comment avoir des relations tout court quand on est beaucoup plus intelligent que les autres. Moi, je trouve que l'attitude de House qui consiste à s'isoler et à rester isolé, à n'entretenir une relation qu'avec celui qu'il tolère le plus, c'est-à-dire avec Wilson, à refuser une relation amoureuse avec Cameron au début de la série, à tourner de façon très très gênée autour du désir qu'il a pour Cuddy. Il y a toute une période entre la première et la deuxième saison, au début de la deuxième saison, où il revoit la femme avec laquelle il a vécu, qui est tout à fait aussi passionnante sur comment ce personnage a pu vivre avec une femme qui est aussi équilibrée. Bon, il y a quelque chose qui est d'un repli sur lui-même, contraint et forcé en regard justement de ses capacités intellectuelles. C'est-à-dire que je pense qu'il ne faut pas oublier que Hugh Laurie joue de la guitare, il joue du piano, etc. C'est-à-dire que le comédien est lui-même extrêmement doué. Donc on voit quelqu'un qui est d'une très grande culture, qui connaît plein de choses, mais qui ne tire pas de satisfaction importante de la relation avec les autres dans la vie courante, qui n'en tire que quand il est devant une énigme, un puzzle à résoudre, parce que finalement, c'est là qu'il est entièrement lui-même. Est-ce que ce serait vraiment éthique qu'il écoute ses amis, qu'il ait des amis, qu'il les écoute et qu'il leur explique à chaque moment ce qu'il pense parce qu'il l'a compris? Est-ce que ce serait agréable pour lui de se taire complètement, c'est-à-dire de rester en retrait et de ne pas dire ce qu'il pense? Je pense qu'il y a quelque chose de très profond sur une personnalité comme celle-là qui, de toute façon, a beaucoup de mal à rentrer en contact avec les autres parce que les autres ne pensent pas aussi vite que lui. Et je crois qu'il faut admettre ça, qu'il y a des gens comme ça. Il y a des gens comme ça qui s'ennuient avec les autres. Et ce n'est pas une question d'éthique, c'est une question tout simplement de tolérance de soi, de tolérance des autres. Est-ce que ce serait acceptable et éthiquement acceptable de toujours expliquer aux autres ce qu'ils font et toujours leur dire « j'ai déjà compris avant toi ce que tu as compris ». Alors, il faut le remettre en perspective, c'est-à-dire que lui, en plus, on lui demande son avis en permanence. Et c'est ça qui est difficile, c'est qu'on vient lui apporter des cases insolubles.
La question que je me posais, c'était justement de savoir si les relations éthiques entre individus ne dépendent pas jusqu'à un certain point d'une certaine opacité des individus les uns par rapport aux autres.
Peut-être.
Nous sommes les uns pour les autres, et même nos êtres les plus chers, nos enfants, les personnes avec qui nous passons nos vies, il y a des zones grises, des zones de mystère qui demeurent des zones grises et des zones de mystère qu'il faut à un moment donné décider de respecter.
Bien sûr.
Et je crois que cette opacité, ce serait un thème à explorer à d'autres occasions, est une des conditions de ce que l'on puisse avoir des relations qui sont des relations éthiques. Et il y a quelque chose donc de tragique dans le personnage de House qui, du fait Hein, de sa lucidité presque parfaite par rapport au mobile des autres, pas toujours des siens, est incapable d'avoir ses relations. Tu as dit à un moment donné que le seul moment où il est vraiment heureux, c'est lorsqu'il se retrouve devant un énigme vraiment croustillant, un puzzle qui l'interpelle intellectuellement. Il y a d'autres moments dans la série, et tu l'as mentionné en passant, où il est également, où il s'étresse, se relaxe, et où on voit presque l'acteur Hugh Laurie apparaître derrière le masque de House, c'est lorsqu'il joue de la musique. Lorsqu'il fait de la musique. D'habitude, en fin d'épisode, on le voit physiquement se transformer lorsqu'il se met au piano ou lorsqu'il joue de la guitare. Et où parfois, hein, et alors là, le lien avec ce qu'il fait en tant que praticien, en tant que diagnosticien, où parfois il commence à jouer un air que l'on connaît et puis il improvise.
Je voudrais revenir sur quelque chose qu'on n'a pas rementionné, mais qui me paraît très très important, c'est que House, à tout moment, la série nous rappelle que House souffre parce qu'il boite, parce qu'il a une canne. Il y a plusieurs épisodes dans lesquels il est ouvertement, il y a même un épisode qui s'appelle House versus God, où il y a un tableau avec Dieu à gauche, House à droite, où il compte les points, enfin les internes, comment c'est Chase qui a mis le tableau comme ça. Et je ne sais pas si c'est dans cet épisode ou dans un autre qu'effectivement, Wilson lui dit « mais tu t'es pris pour Dieu ». Et House répond, mais Dieu ne boite pas. Et y a quelque chose qui revient très très régulièrement sur cette souffrance de cet homme qui a mal à la jambe quand il marche. Il est brièvement soulagé à la fin de la deuxième, au début de la troisième saison parce qu'on lui fait une thérapeutique qui finit par s'estomper après. Mais puis à nouveau il essaye quelque chose. Au milieu de la cinquième saison, c'est-à-dire qu'on voit qu'il est euphorique et tout le monde pense qu'il est toxicomane, en fait, alors qu'il prend des antalgiques justement pour ne pas souffrir. Et il décide d'arrêter ses antalgiques parce que ses antalgiques l'empêchent de penser. C'est-à-dire qu'il est exactement dans la même situation que par exemple les schizophrènes qui sont mis sous neuroleptiques, mais que ça assomme au point que, d'accord, ils ne délirent plus, mais qu'ils ne peuvent plus penser non plus.
Dans A Beautiful Mind, je pense au livre plutôt qu'au film un peu hollywoodien, au sens péjoratif du terme qu'on en a tiré, il y a des moments extrêmement, extrêmement poignants dans lesquels le mathématicien, John Nash, à qui on a réussi à faire de sorte que ces épisodes extrêmes s'estompent, perdent par la même occasion la capacité de voir. Hein. Et il y a une phrase que j'oublie qui dit « Oui, je me sens mieux, mais je ne vois plus les choses de la même manière, je ne comprends pas aussi bien le monde autour de moi que lorsque j'étais. » Et donc, dans quel état sera-t-il, pourrait-il être le plus heureux ?
Voilà. Ça, c'est ça qui est toujours en filigrane de la série, dans House, qui montre qu'on n'a pas du tout affaire à quelqu'un qui se prend pour un demi-dieu, pas du tout. À quelqu'un qui sait qu'il est très intelligent, oui, mais il ne se prend à aucun moment pour un dieu ou un demi-dieu. Encore une fois, un dieu ne boiterait pas.
Ouais. Alors, la prochaine saison de House, sans vouloir encore une fois livrer de la marchandise, il va vraiment falloir que tu t'installes devant ton téléviseur et que tu regardes ces 5 ou 6 derniers épisodes, parce que je pense que la série a vraiment... déjà excellente, a franchi un nouveau cap. Il y a des choses remarquables qui s'y passent. Mais la prochaine saison, je crois, sera marquée par une évolution du personnage de House. House doutant de lui-même. House littéralement habité par des démons en la personne de la copine décédée de Wilson oui. Qui lui apparaît comme une sorte de démon. Et donc, la prochaine série de House, je crois, marquera une nouvelle évolution dans la vie de ce personnage.
À suivre la semaine prochaine.